Voilà, c'est cette parole que nous voulons à présent ouvrir ensemble pour méditer sur quelques paroles de l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 3. La première épître de Pierre, chapitre 3, les versets 18 à 22. Un Pierre 3. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient était rebelle autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel et a reçu la soumission des anges, des autorités, des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Jusqu'ici, notre lecture. Lors de la préparation du baptême avec notre frère Marcel, nous avons bien sûr évoqué ce passage et parlé de l'engagement d'une bonne conscience. Et comme je préparais aussi, je commençais des messages sur l'épître de Pierre, en quelque sorte ce passage s'est imposé à moi. Mais en même temps, je dois vous dire que ce passage est le plus difficile de cette épître, à croire certains spécialistes, le plus difficile carrément de toute la parole de Dieu. Mais si vous avez des questions, vous pouvez voir Marcel, il vous expliquera après. En fait, ce matin, j'ai quand même opté pour mettre toutes les difficultés de côté et essayer de vous parler, d'aborder ce texte sous l'angle de salut que Dieu nous offre, en se servant de l'arche de Noé, dont l'histoire de Noé qui est évoquée dans ce passage auquel l'apôtre Pierre fait ici allusion. Pierre considère que l'histoire de Noé est une figure du salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Cette histoire de Noé, rapportée dans les premières pages de la Bible, du chapitre 6 au chapitre 10 du premier livre de la Bible, la Genèse, nous rapporte en effet qu'au temps de Noé, il y avait beaucoup de violence, beaucoup de corruption sur la terre. Le Seigneur vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. C'est dans Genèse 6. La situation devient insupportable aux yeux de Dieu très saint. Cela attrista beaucoup son cœur et cela lui faisait beaucoup de peine de voir l'homme qu'il vient juste de créer en son image, au bout de quelques générations, est devenu en quelque sorte uniquement orienté vers le mal. La violence, la corruption sont telles que Dieu ne pouvait laisser les êtres humains dans leur égarement et leur rébellion. Alors le Seigneur dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Le jugement de Dieu devient désormais inévitable et le moyen choisi par Dieu pour accomplir son jugement, c'est le déluge. Mais avant cela, le Seigneur pense à Noé, un homme juste, un homme intègre, un homme juste et intègre au sein d'une génération corrompue et perverse. Voilà pourquoi Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et pour épargner la vie de Noé, le Seigneur lui demande de construire une arche, un bateau, si vous voulez, pour échapper aux eaux que Dieu fera venir sur la terre pour tout détruire. Toutes les sources de grands abîmes jailliront, les écluses du ciel s'ouvriront et la terre sera submergée par les eaux d'en bas qui vont remonter sur la surface de la terre, et par les eaux d'en haut qui vont descendre parce que la voûte céleste ne les retient plus. Mais avant de faire venir le déluge, le Seigneur demande à Noé d'entrer dans son arche avec sa famille, c'est-à-dire son épouse, ses trois enfants et leur épouse. Et en même temps, il lui demande de prendre des couples d'animaux, ce qui montre là l'intention de Dieu quand même, après le jugement, de continuer son projet de vie pour les êtres humains. La suite de l'histoire est rapportée au chapitre 7, les versets 17, à partir du verset 17, et je vais vous lire du verset 17 à 23. Il écrit « Le déluge s'abattit durant 40 jours sur la Genèse. Les eaux montèrent et soulevèrent le bateau qui se mit à flotter au-dessus de la terre. Les eaux montèrent et grossirent jusqu'à former une masse énorme et le bateau dériva sur les flots. Le niveau de l'eau montait de plus en plus de sorte que toutes les hautes montagnes sous tous les cieux furent submergées. Les eaux s'élevèrent de 7 ou 8 mètres au-dessus des sommets des montagnes qui disparurent sous les flots, et toute créature qui bougeait sur la terre périt. Les oiseaux, le bétail, les animaux sauvages, toutes les bestioles qui pupulaient sur la terre et tous les animaux. Tout ce qui respirait sur la terre, ferme, mourut. Ainsi le Seigneur effaça de la surface du sol toute créature vivante, depuis l'homme jusqu'au bétail, y compris les animaux. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans le bateau. C'est Genèse chapitre 7, les versets 17 à 23. Seul Noé et ceux qui sont restés avec lui dans cette arche furent sauvés de ces eaux, de ces eaux de déluge. Face aux eaux de jugement, l'arche fut un refuge pour Noé et sa famille. Face à la violence de ces eaux, l'arche fut un abri pour Noé et pour sa famille. Le Seigneur se souvint de Noé et fit reculer les eaux par la suite pour permettre à la surface du sol de sécher. Ensuite, Noé et toute la famille ainsi que les animaux qui étaient avec lui sont sortis de l'arche et ils ont pris un nouveau départ avec Dieu, avec le Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur s'est servi d'une arche pour sauver Noé et sa famille de jugement qui s'est abattu sur la terre. Par la suite, le Seigneur se servira d'une arche pareille pour sauver un autre homme, c'est Moïse. Et les seuls endroits où le terme employé pour l'arche est employé dans l'Ancien Testament, c'est uniquement à ces deux endroits, pour sauver Noé, sauver Moïse. Sauver Moïse, bien sûr, c'est différent, mais Noé, c'est le sauver de jugement qui est advenu à cause de la méchanceté et du mal qui se pratiquait sur la surface de la terre. C'est donc dans une arche que Noé et ceux qui étaient avec lui traversent les eaux de la mort, du jugement, pour aller vers une vie nouvelle avec Dieu. De cette façon, l'arche figure symboliquement l'espace où le projet de Dieu va traverser la mort et la destruction. Le projet de Dieu va traverser le jugement dans l'attente d'un nouveau départ. L'histoire de Noé est écrite dans un style littéraire qui revient régulièrement dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le chiasme. Et souvent, ce style est employé pour faire sortir une pointe. Et la pointe qui ressort dans l'histoire de Noé, ce sont les versets que je vous ai lus, qui sont placés au centre de cette histoire et relèvent deux thèmes. Le premier, c'est celui de jugement de Dieu contre la désobéissance humaine. Et le deuxième, le salut que Dieu accorde à Noé et tous ceux qui sont avec lui dans l'arche. La délivrance de Noé et de toute sa famille de ce jugement exercé contre leur génération est une préfiguration de la délivrance complète, définitive, que Dieu accordera à ceux qui viendront se réfugier en Jésus-Christ, qui vont faire de Jésus-Christ leur abri, leur secours. C'est l'arche de Noé à résister aux eaux de jugement autrefois à plus forte raison. À plus forte raison, le Christ en qui nous pouvons trouver notre refuge et notre salut face au jugement, aux eaux de jugement à venir cette fois-ci. Contrairement au temps de Noé, le jugement à venir, le jugement futur sera définitif et il sera total. Et personne ne peut y échapper. Pierre parlera de Dieu comme étant prêt à juger les vivants et les morts. C'est 1 Pierre 4 au chapitre 4. Il n'y a donc aucun moyen d'éviter ce jugement futur. Sa venue est aussi certaine que la venue de la mort, que nous voyons autour de nous dans la vie de l'humanité. Le moyen que Dieu a prévu pour sauver l'être humain de ce jugement à venir, c'est le Christ. C'est Jésus-Christ, celui qui met sa foi en Jésus n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas en Jésus est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le Fils de Dieu unique, commente Jean l'évangéliste au chapitre 3, verset 18 de la déclaration « Dieu a tant aimé le monde ». Seul Jésus peut nous délivrer de la colère à venir et de nous donner le salut dont nous avons besoin. Face au jugement de Dieu, seul Christ peut être pour nous ce que l'arche a été pour Noé lors du déluge. Christ peut être notre sauveur, notre refuge, notre protection face à ce jugement à venir. Pourquoi Christ? Et pourquoi Christ seul peut faire cela? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Il y a tellement de prophètes. Parce que c'est lui, et lui seul, qui a payé le prix de notre péché. C'est lui qui a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, l'innocent, c'est-à-dire qui n'a pas péché. Or, tous les autres prophètes et tous les autres hommes et femmes que cette terre a portés, aussi intelligents soient-ils, ont tous péché, sont tous marqués par le péché. Or, Christ, il est cet innocent. Il est mort pour les coupables, afin de nous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, dans sa chair, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit, dit le verset 18 du texte de Pierre que nous avons lu. C'est lui, le Christ, qui est mort, une fois pour toutes, afin que nous ayons la vie en lui, et la vie en abondance, la vie éternelle. Sa mort est unique. Elle est suffisante pour payer le prix de notre condamnation. Elle est suffisante pour payer le prix de notre désobéissance, de notre égarement. Contrairement au sacrifice de l'Ancien Testament qui devait être renouvelé régulièrement, le sacrifice de Jésus-Christ a été donné une fois pour toutes pour sauver ceux et celles qui croient en lui. Le verset 18 nous donne la raison pour laquelle justement Christ a souffert la mort sur la croix, nous conduire ou vous conduire à Dieu, au verset 18. C'est une manière de dire qu'en Christ, nous pouvons traverser le jugement et arriver jusqu'au Dieu, dans la présence de Dieu, pour vivre avec lui éternellement, pour toujours. L'offre de salut en Jésus est pour maintenant, précise le verset 21. Le salut est possible en Jésus-Christ pendant ce temps de grâce, ce temps qui nous sépare encore de ce jugement à venir. C'est maintenant que nous pouvons trouver en Jésus-Christ notre sauveur, notre refuge. Notre salut et notre refuge. C'est ainsi que Christ devient pour nous, en fin de compte, l'arche du salut. Du salut qui nous permettra de traverser les eaux de jugement à venir, comme l'arche de Noé a permis de traverser le jugement d'autrefois. Ce salut offert est à recevoir, est à accepter maintenant, et non pas au jour du jugement, car ce jour-là, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Accepter maintenant ce salut, c'est croire dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est recevoir le pardon des péchés grâce à la mort et à la résurrection de Christ, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Éphésiens 2. C'est accepter le salut maintenant, c'est laisser Jésus devenir notre Seigneur dès à présent. Parce qu'il est monté au ciel, il a reçu la soumission des anges, des autorités, des puissances. Et il se trouve à la droite de Dieu, comme le précise le verset 22. C'est par ce moyen que Dieu a prévu de sauver ceux qui vont croire en Jésus-Christ. Comme Noé a cru lui aussi, lorsque Dieu lui a demandé de construire l'arche. Il a cru à la parole de Dieu. Maintenant, il est aussi de notre responsabilité de croire, de recevoir, accueillir cette parole de notre Seigneur. C'est au travers de Christ et uniquement au travers de lui que nous pouvons être sauvés, préservés du jugement à venir. Aucune œuvre, aucune bonne œuvre ne pourra nous délivrer, comme le passage d'Éphésiens 2 aussi nous l'a rappelé tout à l'heure. Rien ne pourra nous délivrer, c'est uniquement par ce moyen-là que Dieu a prévu la foi et la foi seule. C'est grâce uniquement à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix que nous pouvons encore aujourd'hui être au bénéfice de ce salut de Dieu. Mais pour être au bénéfice de ce salut, il nous faut une réponse personnelle, une réponse individuelle, une réponse personnelle à l'invitation de Dieu d'entrer dans l'arche de salut, qui est Jésus-Christ lui-même. C'est lui notre arche. Si nous continuons à refuser d'entrer dans cette arche de salut, les eaux du jugement nous emporteront définitivement, comme les eaux du temps de jugement du temps de Noé ont emporté tout sur leur passage. Cette réponse personnelle à Dieu s'exprime dans la confession de foi que nous formulons publiquement. Et l'un des moyens visibles de cette confession de foi, c'est le baptême. Par le baptême, nous disons entre autres notre adhésion à Christ, notre identification à son œuvre sur la croix. Pour nous, c'est ce qu'a fait notre frère tout à l'heure, Marcel, en se faisant baptiser. Il a redit d'une manière imagée sa foi en Jésus-Christ après l'avoir dite par des paroles que vous avez entendues. Il convient donc d'apporter ici juste une précision concernant le verset 21. Dans certaines traductions, il est question du baptême qui sauve. Mais à vrai dire, ce n'est pas le baptême comme rite, comme moyen, ce n'est pas cela qui nous sauve. Mais c'est la confession de foi que nous proclamons par le baptême qui nous permet d'être sauvés. Et cette confession de foi, elle est déclarée sur la base de l'œuvre de Jésus, de la croix. Et donc c'est la base de Christ, ce que Jésus a fait pour nous, c'est cela qui nous permet d'être sauvés et non pas le baptême en soi qui nous sauve. C'est pour cela d'ailleurs, à la fin du verset 21, il est précisé que c'est à travers la résurrection de Christ, de Jésus-Christ, que nous sommes sauvés. Donc, le baptême comme rite, comme pratique, ne change rien à notre situation de pécheur. Mais c'est la réponse positive à l'invitation de Dieu d'entrer dans l'arche de salut que nous exprimons par le baptême qui nous permet d'échapper au jugement à venir. Voilà pourquoi nous devons considérer sérieusement cet appel de Dieu à venir à Christ et à faire de lui notre Sauveur, notre Seigneur. La tentation d'adopter la même attitude que celle des contemporains de Noé est vraiment très très grande et nous devons faire très attention. Vouloir continuer à manger et à boire, à se marier et reléguer la question du jugement à venir au second plan, cela a été aussi l'attitude des contemporains de Noé. C'est ce qu'ont fait ces contemporains de Noé jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. C'est ce que Jésus précise dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Justement, revenons maintenant un petit peu à l'histoire de Noé. Pour mieux saisir le salut offert en Jésus-Christ, après le déluge, on se retrouve en quelque sorte devant un nouveau départ avec Noé. Comme Noé, en quelque sorte, c'est un nouveau Adam. Beaucoup de parallèles sont faits après l'histoire de Noé, après le déluge, avec la création, c'est-à-dire Genèse 1. Mais hélas, avec ce nouveau départ, le scénario se reproduit. Et on assiste une nouvelle fois à une nouvelle chute. Noé qui mange du fruit de la vigne, au chapitre 9 de Genèse, verset 20, et qui se retrouve honteusement aussi nu. Cette scène paradoxalement rappelle la scène d'Adam. Adam qui lui aussi, après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, s'est retrouvé nu aussi, s'est rendu compte qu'il était nu et il avait honte. De la même manière, après la chute d'Adam, et suivait une montée de violence. Les chapitres 4 de Genèse nous rapportent deux meurtres, celui de Caïn et celui de Lémec. Et la chute de Noé aussi est suivie d'une montée de violence et d'orgueil qui a conduit les descendants de Noé à vouloir construire une tour jusqu'à toucher Dieu. Voyez l'orgueil de l'homme, jusqu'à quel point il s'est manifesté, c'est dans Genèse 11. Et pour mettre fin à la désobéissance d'Adam et de ses descendants, Dieu a envoyé le jugement qui est le déluge. Et on s'attendrait à la fin de Genèse 11, à ce qu'en Genèse 12, il y ait un nouveau jugement. Peut-être c'est un déluge ou autre chose, mais un jugement de Dieu. Or, ce n'est pas cela. Dieu, en Genèse 12, appelle un homme, Abraham, pour commencer à révéler son plan de salut. À la place donc le jugement, Dieu a fait reculer le jugement pour une autre fois, a fait reculer, reporter le jugement ultérieurement, mais entre-temps, Dieu s'est engagé avec les êtres humains pour leur révéler le moyen par lequel ils vont être sauvés, ils peuvent être sauvés. Et ce moyen, c'est parti avec Abraham. Dieu lui a promis de faire de lui une bénédiction pour toutes les nations. Et cette bénédiction s'est réalisée en Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ que nous pouvons enfin ce projet, cette arche nouvelle qui permettra non seulement à 8 personnes d'être sauvées, mais à une multitude de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les temps, à condition que ça se fasse avant l'arrivée de ce jugement. Cette arche, c'est Christ en qui nous pouvons trouver refuge. C'est pourquoi, chers amis, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, la question qui se pose à chacun d'entre nous est de savoir si nous sommes dans cette arche, si nous sommes en Jésus-Christ, si nous sommes entrés dans l'arche de salut qui nous est donnée pour échapper au jugement à venir. Nous devons savoir que le jugement de Dieu viendra comme au temps de Noé, ce que Jésus déjà avait dit à ses disciples au chapitre 24. Je vais relire un peu le passage à partir de verset 38, Matthieu 24, 38. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger, à boire, à se marier, à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Jésus dit, ça sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Et pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts pour ce retour du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Jésus-Christ? Sommes-nous prêts pour ce jugement final, définitif, ce jour terrible où la colère de Dieu se manifestera, non pas contre les hommes, mais contre le mal qui nous a tellement conduits loin de lui. Jésus, l'arche de salut, nous invite à venir à lui, à trouver en lui notre refuge, notre protection. Je ne mettrai pas d'or celui qui vient à moi de Jésus. Si vous voulez venir à lui, surtout, j'aimerais vraiment vous insister pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, entrer dans cette arche, pour qui ce n'est pas encore clair. Même je vous supplie de ne pas rester d'or, mais d'entrer, parce que nous ne savons pas quand l'heure de jugement sonnera. Certes, il faut prendre son temps pour réfléchir, c'est une question très importante, mais pour être honnête avec même ce que la Bible nous enseigne, nous n'avons pas tout le temps, nous ne savons pas quand la fin sonnera. Et nous prions vraiment pour que nous soyons nombreux à entrer dans cette arche de salut que Dieu a prévue, pour que nous soyons protégés, traverser le jugement et vivre éternellement avec Dieu dans sa présence. Si vous voulez répondre favorablement à cette invitation de Jésus d'entrer, de venir à lui, nous serions vraiment très très heureux de vous accompagner. N'hésitez surtout pas à venir nous voir pour discuter, prolonger la discussion avec lui. Quant à nous qui avons déjà dit oui à l'invitation de Christ, qui nous trouvons déjà dans l'arche de ce salut, nous ne devons pas oublier que l'arche dans laquelle nous nous trouvons est entre de bonnes mains. Que rien, ni les vents, ni les tempêtes, comme nous l'avons chanté aussi, ne peuvent la faire trébucher entre les mains de notre Père céleste. Nous devons tirer toutes les assurances, toutes les conclusions pour que nous gardions notre confiance, malgré tous les vents, malgré toutes les tempêtes que nous pouvons traverser ici-bas. Et bien sûr, cela aussi doit aussi nous donner la confiance quant au jugement à venir, à l'assurance de le traverser pour mener une vie éternelle avec notre Père en présence de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. que Dieu ce matin nous garde au creux de sa main ou dans la sûreté de son arche. Amen.